l'invité de la rédaction. Valérie Vial.
Le 6 octobre marque traditionnellement la journée nationale des aidants et pour marquer l'occasion, la collectivité européenne Alsace a organisé une journée d'accueil à la maison du conseil départemental de Bischheim afin d'aider les aidants dans leur démarche, leur quotidien, leur logistique et surtout se rencontrer. Écoutons Christiane Wolf-Fugel, conseillère d'Alsace.
Donc alors la définition de l'aidant, déjà elle est actée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et qui date de 2015, donc qui a été appliquée qu'en 2016. Mais ça permet aux aidants qui s'occupent d'un proche, qui soit donc en perte d'autonomie, soit lié à son âge, soit lié à son handicap, soit lié à une maladie ou même en situation de soins palliatifs. Alors pour ces gens-là, la Journée nationale de l'aidant est importante parce que les aidants ne se prennent pas pour des aidants. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à toucher les personnes qui s'occupent de leurs proches, puisqu'ils trouvent tout à fait normal qu'on s'occupe de son conjoint, de son enfant, de son frère. Et finalement, ce sont des personnes qui sont polyvalentes. Donc, elles font les travaux, enfin, les gestes, elles se suppléent aux gestes de la vie quotidienne de leurs proches. Et ce qu'il y a de plus avec un proche aidant par rapport aux professionnels, c'est qu'il y a l'affect. Ils doivent aussi gérer l'amour qu'ils portent à leurs proches. Et en général, il y a une notion de culpabilité derrière. Il y a une notion de dépression, il y a une notion de stress, il y a une notion de fatigue et qui peuvent amener à un épuisement de cette personne qui ne pense pas à prendre soin d'elle et qui ne pense pas à demander de l'aide. Et donc le programme de ce mois des aidants, puisqu'on a quand même, se décline sur tout un mois, mais peuvent être pérennes sur toute l'année. Donc grâce à la conférence des financeurs, on a obtenu un financement pour que ces actions soient gratuites pour l'aidant, pour permettre aux différents aidants, parce que nous savons aujourd'hui qu'on a 11 millions d'aidants en France, dont la plupart, vous pensez bien que c'est une majorité de femmes. On a également 40% qui sont encore en activité professionnelle et on sait aussi qu'un aidant sur trois décède avant son aidé. Pour les personnes qui sont encore en activité professionnelle, la loi prévoit également depuis septembre 2020 un droit au congé spécifique avec une rémunération. Selon le degré de dépendance de la personne, on peut bénéficier de ces congés. On a des barèmes différents, mais il faut que les personnes se renseignent auprès de leurs employeurs ou auprès de nos conseillères territoriales autonomie.
Laurent Kilis, aidant, nous parle de son expérience du Café des aidants et de la difficulté de trouver un établissement pour son frère malade.
Oui, si je peux prendre rapidement la parole, c'est aussi pour témoigner de l'aide que j'ai reçue au Japon pour mon frère. J'ai pu, avec l'aide de parlementaires et puis de délégués, Thierry Consigny, Yves Alemany et d'autres associations, organiser le rapatriement sanitaire de mon frère du Japon en Alsace. Donc depuis 5 ans, je m'occupe au quotidien de lui. Grâce au Café des aidants, Sabrina Bison et tous les professionnels qui assistent, dont certains sont ici autour de nous. Ça a été vraiment une aide mensuelle au quotidien. Au quotidien, ça reste très pesant. Très pesant. Alors, bon, j'ai été effectivement épaulé pour l'aide au retour, au rapatriement sanitaire. Un ministre a dû signer l'AMEH, parce qu'il habitait depuis 44 ans au Japon. Et son retour sur le territoire a été vraiment problématique. Grâce à la MEH, il a pu être soigné dès son arrivée sur le territoire français. En Suisse, ça a été un vrai parcours du combattant, parce que au niveau de la CARSAT, au niveau des impôts, ça a été vraiment très très difficile. Mais moi, j'ai trouvé de l'aide au niveau du Café des aidants et des professionnels qui étaient là. J'ai rencontré aussi des personnes qui sont devenues des amis, qui m'ont au jour le jour donné des pistes pour l'aider. Là, je suis devant la situation de trouver un établissement. J'ai coché les 34 établissements susceptibles de l'accueillir, de l'Eurométropole. Ça fait 6 mois que j'attends une réponse. C'est bon, c'est ça. Alors, il y a de l'aide, mais il faut tenir. Voilà.
Écoutons également le témoignage d'André Vac.
Je voudrais partager un petit peu aussi de mon expérience. Effectivement, déjà, le terme d'aidant, il est récent. Et quand, en 2010, je suis devenu le curateur de mon frère, je ne savais pas que j'étais aidant. Et donc, c'était un début d'intervention très difficile pour gérer tout ce qui était administratif et autres, puis l'aspect psychologique de mon frère, tout ce qu'il y avait à faire au niveau de son logement, les comptes rendus à rendre au niveau du juge. Oui, il y a eu beaucoup d'étapes très difficiles, à tel point qu'en 2015, j'ai dit j'arrête d'être curateur. On n'arrête pas d'être frère. Et 2015, ça s'est prolongé. Tout de suite après, c'était ma mère qui faisait un AVC avec un père qui était de plus en plus malvoyant. La difficulté ou le terme que je trouverais important de formuler, c'est la prise de conscience ou les prises de conscience. C'est quand je suis arrivé ici dans ce bâtiment pour trouver les dossiers pour préparation à l'APA, j'ai trouvé des interlocutrices qui m'ont permis de constituer les dossiers et aussi de m'informer sur ce qui pouvait exister comme soutien, notamment des réunions d'aidants, café des aidants. Et j'ai participé, et c'est grâce à ces réunions que moi j'ai fait un certain nombre de prises de conscience. J'étais confronté à des personnes qui avaient des vécus un peu parallèles et des professionnels qui pouvaient aussi informer. Et ça, c'est extrêmement important, que ce soit une psychologue, une assistante sociale qui donne des avis ou des choses sur des types d'aide ou des évolutions de pathologie, de tous ces aspects-là. Et dans la notion de prise de conscience, je trouve important qu'il y en ait aussi dans le monde du travail, dans quel que soit le monde, qu'il soit privé ou public, que les dirigeants, les responsables des ressources humaines prennent conscience de ce monde-là, qu'on a besoin de soutien, qu'on est aidant, qu'on puisse souffler, qu'on puisse avoir du temps pour soi. Parce qu'au bout d'un moment, on est tellement pris dans le mouvement que moi, je me suis retrouvé à m'oublier à moi-même, à me rendre compte que je n'ai même pas fait des courses pour moi, par exemple, quoi. Et puis il y a cette notion, comme ça a été dit, de fatigue qui s'installe, d'épuisement, c'est du 24 heures sur 24 qu'on cogite à penser « Ah, j'ai pas oublié ça ». Et je faisais des courses, j'avais par exemple mon père qui me téléphonait encore, il fallait que je gère, et les commissions, et puis la femme de ménage qui était arrivée au domicile des parents, etc. Donc ça devient quelque chose qui est vraiment très 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 difficile à mener, et puis sur la durée, ben voilà, il y a des choses comme ça. Donc c'est ces journées-là, comme celle-là, et tout ce qui est support, que ce soit film, document, c'est extrêmement important.
Écoutons maintenant le témoignage de Noum Bissi.
Moi, c'est la maman d'un jeune qui a bientôt 20 ans en décembre, donc qui est autiste. Donc j'ai eu la charge depuis qu'il est tout bébé, qui a été diagnostiqué dès l'âge de 2 ans et demi. Donc ça n'a pas été facile non plus pour moi, parce que j'ai dû mettre ma vie professionnelle entre parenthèses. Et donc ça fait juste un an, là maintenant actuellement je suis assistante sociale au département à Edkirch. Et j'ai mis ma vie professionnelle entre parenthèses parce que c'était très très compliqué de prendre en charge un enfant autiste avec une fratrie. Enfin, le parcours a été vraiment très très compliqué, surtout par rapport à la prise en charge. Et c'est vrai que j'ai eu l'aide avec la PCH qui m'a permis de temps en temps aussi, parce que je ne pouvais pas tout faire, de le prendre en charge dans ses accompagnements, des activités extrascolaires, surtout même il y a des moments où j'avais des rendez-vous avec des médicaux, avec frères et sœurs, je ne pouvais pas être partout à la fois non plus. J'ai tout fait pour qu'ils ne soient pas mis dans le monde, qu'ils soient enfermés dans le monde du handicap. Donc mon combat était dans tout ce que les autres pouvaient faire. Il a été scolarisé, il n'a pas eu un parcours ordinaire, donc il est dans des classes thérapeutiques, avec prise en charge en matinée et puis le soir, il était avec moi. C'est pour ça que je ne pouvais pas travailler. Enfin, j'ai commencé 51 ans, donc ça fait un an que je travaille vraiment. Donc, ça n'a pas été vraiment évident. Il est accueilli en IMPRO CIFAS, là, pour l'instant, et accueil de jour. Et le combat, maintenant, c'est pour qu'il puisse être autonome. Donc, ce n'est pas évident non plus. Ça fait que quelques temps qu'on a commencé à prendre le transport en commun tout seul. Mais moi, par exemple, en journée, j'ai toujours mon téléphone près de moi, en fait. Ouais. Parce qu'il peut m'appeler, comme ce jour-là, il peut appeler à n'importe quel moment. Donc, surtout par rapport à son trajet, on ne sait jamais. Il y a un souci, un problème de bus ou de tram. Il faudrait qu'il m'appelle pour que je lui dise ce qu'il doit faire. Donc, je dois être disponible tout le temps, en fait.
Les aidants dont vous venez d'entendre le témoignage ont participé à un petit film commandé par la collectivité européenne d'Alsace que vous pouvez voir sur le site de la CEA.
L'invité de la rédaction.